Alors, je voulais vous raconter un petit peu moins d'équations qu'hier. En tout cas, elles sont plus faciles, elles sont juste des bonnes puissances, ça va être beaucoup plus pratique. L'idée étant de vous montrer, donc hier on a vu un petit peu que une onde de choc avait pour mission de récupérer l'énergie cinétique incidente du milieu quand on est assis sur le choc et de la redistribuer dans toutes les directions pour la thermaliser. Et donc aujourd'hui, on va essayer de voir un petit peu comment évolue l'onde, c'est-à-dire quand elle part en propagation, quelles vont être ses propriétés, surtout comment on arrive à les calculer. Donc je vais prendre un exemple tout simple, qui est le plus facile, d'ailleurs c'est un peu de là. D'où ça vient ces relations que je vous donne? Ça vient des champignons nucléaires, c'est la première fois qu'ils ont modélisé ça. Et c'est un monsieur Sedov, un académicien russe, qui a modélisé ça à l'époque. Et donc, ce qui est la deuxième utilisation de ce genre de calcul, ça a été de voir l'expansion d'une explosion de supernova, c'est-à-dire... Ah oui. On va peut-être pas le bouger. Alors, ouais, c'est une autre technique. Il y a un faux contact là. Bon. Si on ne bouge pas comme ça, on va essayer. Donc, l'idée, c'est de prendre... ça a été appliqué à des objets sphériques, et donc l'explosion d'une étoile étant presque isotrope, on peut avoir un objet sphérique. Et en plus, c'est un gaz parfait, et en prime, ça déboule dans un gaz super parfait. Donc, c'était le cas idéal pour modéliser, c'est celui que je vais prendre. Mais ces concepts que je vais vous raconter sont tout à fait généraux. Ils peuvent s'appliquer à d'autres objets, et notamment un petit passage sur la formation des cratères dans le système solaire. Simplement, il faudra rajouter un ou deux ingrédients en plus du gaz parfait pour ce qui est de la viscosité du solide, du sol dans lequel ça se propage. Donc ici, vous avez une vraie photo, c'est-à-dire que cette supernova qui a explosé en 1993 dans cette galaxie, vous voyez, elle a été vue en radio et on a suivi petit à petit l'expansion du reste avec c'est redoutable comme information à avoir. Vous voyez qu'on prend des interféromètres radio. J'ai pas bougé, hein, promis, j'ai rien touché.
Je pense que c'est le stylo qui fait
de
feedback.
Ah la vache. Bon, alors pas de stylo. Tic. Non. C'est moi. C'était les lunettes. Non. Non, non, c'est vraiment les ondes de pression quand on bouge là. On peut plus rien faire. Ou alors j'enlève le micro, mais derrière on n'entend pas. Ben non, je touche pas le pied. Regarde. Tiens, bouge, tu vois. Toi, ça fait rien. Pourquoi je fais de l'induction et toi t'en fais pas? Non, on a pas réussi à faire. T'es fait de quelle matière? Toi, tu bouges, ça fait rien. Moi, je bouge, ça fait quelque chose. Donc, du coup, je vois plus rien parce que j'ai plus le pointeur, j'ai plus rien. Ces mesures, ce sont des même pas des dixièmes de millisecondes d'arc. Hein, donc, il faut vraiment non seulement avoir pris des radiotélescopes, mais les avoir mis sur deux continents différents pour arriver à récupérer l'information en résolution angulaire que ça demande. Moyennant quoi, ils ont pu quand même vérifier pas mal sur les premières phases d'expansion du reste de supernova. Le problème, c'est que c'est la phase la plus facile à modéliser, donc c'était pas forcément rigolo pour la physique ultérieure. Donc, on va voir cette expansion qui démarre avec un processus qui est du genre boulet de canon qui part. Ensuite, on va avoir une phase de plutôt de conservation de l'énergie. En fait, la conservation de l'énergie, elle est ici. Cet objet est beaucoup trop jeune pour être dans les phases ultérieures. Et puis, on va finir dans mode chasse-neige. Donc, comme je vous le disais, il y a des applications de ce genre de raisonnement dans des gaz moins parfaits que sont les impacts de météorites ou les impacts de bouts d'astéroïdes ou les impacts non pas de comètes mais de l'onde de choc de la comète qui ne fait pas de cratère mais qui peut vaporiser et faire des couches un petit peu. Mais c'est surtout pour les objets solides qui atterrissent dans le sol. Vous avez ici, on reviendra sur ce graphe, mais vous avez de pressions qui au début sont vraiment l'onde de choc hein, pour arriver à faire un cratère sphérique où ça n'est pas directement l'impact qui fonctionne, c'est la propagation de l'onde de choc qui va partir dans les premières couches du sol et qui petit à petit va devenir une onde élastique normale, elle va perdre sa propriété d'être discontinue et violente. Vous voyez les gigapascales hein, qui entrent dans le sol. Donc c'est important. Au départ, vous avez une centaine de gigapascales, ce qui est très très au-dessus des propriétés élastiques. Corrigez-moi, mais j'ai cru comprendre dans mes lectures que c'était de l'ordre du gigapascal pour être à peu près élastique. Donc là, toute cette phase-là n'est pas du tout dans une phase d'onde sismique logique normale. Et ça explique ce genre de cratère. Ici, je vous ai mis celui qui est en Afrique du Sud, que je ne prononcerai pas parce que c'est insupportable, l'Afrique du Sud. Qui est très grand, qui a 2 milliards d'années, qui est un des plus vieux sur Terre, je crois même que c'est le record, c'est le plus ancien, et là vous avez 300 km, donc si vous vous promenez sur le sol, vous ne voyez strictement rien, il y a peut-être une colline à l'horizon qui est due au cratère, mais c'est le seul moyen de le voir, c'est vraiment la photo satellitaire. Donc une observation d'une expansion probablement sphérique, alors pour le réseau supraconte, on continue dans les dans la journée qui commence bien. On a, pour l'expansion sphérique du réseau supernova, il suffit de regarder les images. Pour le sol, je ne sais pas le traduire, Shattercone. Il y a trois géologues devant. Ah, tada. Oui. Bon, alors des Shattercones. Qui sont donc, quand vous avez l'impact, l'onde de choc qui va donc partir en hémisphérique ici et qui va fracturer bien sûr déjà et qui va après cristalliser. Ça doit pas être, si c'est de la non, ça doit pas être de la recristallisation. Oh, c'est chaud quand même, ça doit être de la recristallisation. Mais qui fait des stries très caractéristiques et ces stries sont divergentes. Alors le schéma est un petit peu plus académique, mais on retrouve apparemment ces formes de cailloux extrêmement particulières orientées vers le centre de l'impact autour. D'ailleurs, c'est même un des critères de décision pour savoir si c'était bien un cratère d'impact et pas autre chose. Donc là, elle est dans le Saint-Laurent, l'île aux Oies, au Québec. Et il y en a en France, il y en a un peu partout. À chaque fois qu'il y a eu des impacts violents, on a ce résultat-là qui leur permet de reconstruire un petit peu justement l'histoire de la diapo précédente. On a aussi des exemples où on voit bien la propagation sphérique, probablement sphérique, enfin circulaire et avec une stratification dans les profondeurs quand on a un impact de comète. Ici dans l'atmosphère de Jupiter, c'est arrivé en 1994 où la comète Shoemaker-Levy a impacté Jupiter. En fait, vous avez plusieurs impacts parce qu'il y a plusieurs morceaux. La comète s'est déchirée avant par les forces de marée et elle est arrivée, si ma mémoire est bonne, en 17 morceaux. Mais on voit bien ici, là c'est 45 minutes après, vous connaissez la taille de Jupiter hein. Donc 45 minutes après, vous voyez déjà l'amplitude que ça a pris. Et c'est un phénomène très très important. Par contre, ça a été très intéressant justement pour sonder les propriétés de l'atmosphère et de voir comment ça s'est passé. C'est probablement ce qui s'est passé dans la Tunguska en 1915, quand il y a une comète un bout de comète qui est entré dans l'atmosphère et qui a absolument tout couché dans la Tunguska, sauf qu'il n'y a pas de cratère d'impact. Donc, la différence entre impact de météore et impact de comète, c'est que la comète se vaporise entièrement dans l'atmosphère et donc il n'y a pas d'impact au sol, il n'y a pas de cratère. Mais par contre, vous avez tous les effets secondaires de l'onde de choc qui a couché des arbres sur des centaines de kilomètres carrés. Donc, et c'est probablement ce qui a dû se passer à Chicxulub, le fameux impact du Yucatan qui aurait tué les dinosaures en partie. Et donc, les dernières mesures que j'ai pu lire tendent à penser, c'était cet été, qu'on serait plutôt sur un impact de type cométaire, c'est-à-dire l'onde de choc et pas vraiment un caillou qui est tombé. Comme c'est dans l'océan, je ne sais pas du tout la fermeté de cette affirmation, mais c'est ce qu'ils avaient l'air d'indiquer. Donc, comment ça marche ? Ben, y a d'abord une chose qui est à voir, qu'on voyait bien sur la photo de Jupiter, c'est que vous avez l'impact, vous avez la partie extérieure, puis vous voyez, il y a une nette démarcation à l'intérieur. Ça doit être l'impact suivant, je pense. Mais il y a une nette démarcation à l'intérieur, et on le voit aussi sur les photos du reste de supernova qui sont là. Vous voyez, il y a une couche extérieure et il y a une démarcation intérieure. Donc, pratiquement tous les chocs se retrouvent avec cette double structure qui est due au fait que vous avez le choc avant, qui est celui qui est la discontinuité de pression, et ce choc avant va avancer dans le milieu ambiant. Le milieu ambiant a une masse, même si c'est un gaz raréfié, il y a une masse. Et donc, il va avaler de la matière, passer en aval, et cette matière qui va être passée en aval alourdit le choc, donc le ralentit, conservation de la quantité de mouvement. Et donc, en le ralentissant, c'est un problème qu'il faut que les éjectas... Vous vous rappelez, le choc, c'était provoqué par le piston, et puis le choc est à l'avant. Donc, vous avalez du matériau à travers le choc pour le passer en aval, et puis le piston qui lui arrive derrière. Donc, il faut que le piston ralentisse aussi. Et donc, le seul moyen le seul moyen que la nature a de faire ralentir le piston, eh bien, c'est de le renvoyer un choc en retour dans le piston. Ah oui, décidément, je ne peux pas m'éloigner. Alors, on va le faire comme ça. Donc, vous avez ici le choc avant. Vous avez en grisé la matière interstellaire. Je prends l'exemple de supernova parce que c'est beaucoup plus simple. Vous avez la matière interstellaire qui est passée, comprimée derrière le choc. Et vous avez ici un choc en retour qui est lancé à l'encontre du piston pour ralentir le piston parce que le choc avant est aussi en train de ralentir. Donc en fait, ce schéma est vu du point de vue du choc. C'est clair que le choc en retour, il s'éloigne, hein. Il part en expansion aussi. Mais il est en train d'essayer de remonter vis-à-vis du choc avant, il est en train d'essayer de remonter vers la source du piston central. Et on a deux matériaux ici qui ne se mélangent pas. Vous y avez ici, dans cette partie orangée, vous avez le piston choqué, donc le gaz du piston choqué, et ici, vous avez le gaz externe choqué. Et ces deux ne se mélangent pas. On va le voir, c'est très clair. Même s'il y avait des champs électriques et magnétiques, ça ne se mélange pas. Vous avez des forces électromagnétiques qui se mettent sur la discontinuité de contact ici, qui font que c'est vraiment un écran entre les deux. Donc pourquoi ça? En fait, vous avez ici la vitesse derrière le choc, les protons et les électrons ont pris la vitesse du choc, à peu près. C'est à un quart près, donc la vitesse du choc. Et donc, les protons sont très violemment chauffés, les électrons sont 1800 fois moins chauffés. C'est pour ça que vous avez un écart de température entre les électrons et les protons au début. Et il faut que les forces de Coulomb thermalisent tout le monde à la sortie pour qu'ils aient tous la même énergie cinétique au bout d'un moment. Donc, mais au début, vous avez les protons qui sont beaucoup plus chauds que les électrons. Vous avez une vitesse du choc ici qui est scalaire et la vitesse qui passe dans ce milieu-là. Vous avez au niveau des températures, vous avez pas la même vitesse du choc avant et du choc retour. Donc vous avez des températures du milieu piston choqué et du milieu externe choqué qui ne sont pas les mêmes. Or, vous avez deux milieux. Rappelez-vous, derrière un choc, vous êtes subsonique. C'est tout le but du choc, c'est de repasser en subsonique. Et quand vous êtes en subsonique, s'il y a des variations de pression là-dedans, ou s'il y a des variations de pression là-dedans, comme ça c'est l'aval du choc avant et ça c'est l'aval du choc retour, vous avez ici deux milieux les variations de pression peuvent circuler rapidement et homogénéiser en premier ordre les différences de pression. Donc vous allez penser à carrément pression uniforme, on fait des choses simples, mais vous avez ici une pression qui est quasi uniforme, et ici vous avez une pression quasi uniforme. Or vous avez des températures très différentes. Et parce que les températures sont différentes, PV égale NKT, vous vous retrouvez avec des densités différentes. Donc vous avez ici des densités très différentes de celles-là, et ça ne va pas dialoguer au niveau de la discontinuité. Ces deux milieux choqués ne vont pas dialoguer, ou très peu, ils vont dialoguer avec des effets d'instabilité de Rayleigh-Taylor, les doigts des instabilités, mais ça va très mal se mélanger, ça ne se mélangera que beaucoup plus tard. Donc ça, c'est vraiment la partie structure de choc. Que vous la mettiez en sphérique, que vous la mettiez en étrave, plein de choses, on a toujours cette double structure qui se met en place. Avec un profil qui est comme celui-ci, Donc ici, vous avez, c'est en distance relative par rapport au choc avant. Donc vous avez le choc avant, vous avez alors c'est la pression, donc on voit la pression à l'extérieur qui est faible, la pression à la discontinuité du choc avant, et puis à l'intérieur, le piston, comme il était parti en expansion, la pression diminue rapidement, et puis la discontinuité du choc retour. Et entre les deux, vous voyez que là, c'est la densité du milieu interstellaire externe choqué. Ici, vous avez la densité du milieu piston choqué, des éjectables étoiles choquées. Et entre les deux, bon, alors ça part un petit peu en diminution. Et là, vous avez clairement la discontinuité de contact. Et quand je vous disais que la pression est presque homogène entre les deux, on est presque en condition isobare. Il y a une petite différence, mais vous voyez, il y a 20% d'écart ici. On pourrait presque faire une marche d'escalier simple. Parce que c'est subsonique. Donc tout ce qui est mélange de pression peut faire. Et à la discontinuité, on la trace comme un beau cercle sur les schémas, mais voilà ce qui se passe. Mais vous voyez, il y a très peu de mélange. En fait, ça se finit par se mélanger que grâce à la turbulence et au doigt de Rayleigh-Taylor. Sinon, c'est deux milieux signaux. Ce qui est quand même assez rigolo. Et ça n'est pas une vue de l'esprit, parce que vous avez un exemple ici, sur Cassiopeia, qui est une supernova qui a dû exploser en 1680, sauf que personne ne l'a vu, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, on ne comprend pas bien pourquoi, la lumière ne nous est pas parvenue sur Terre, il n'y a aucune trace, et c'est pas parce que, c'est pour la petite histoire, l'explosion du crabe qui a eu lieu en 1054 a été répertoriée partout sauf en Europe. Et maintenant ils commencent à la retrouver, parce que depuis que le mur de l'Est est tombé, on commence à avoir accès aux archives de monastères de l'Europe centrale, et là on retrouve des traces dans les monastères d'Europe centrale, mais ça a été sous le couperet de l'Église. Il n'est pas question d'avoir une étoile nouvelle dans le ciel jusqu'en 1600, en 1500 et quelques, jusqu'à Galilée, parce que vous alliez contre Aristote qui disait que le ciel est éternel et immuable, et si vous allez contre Aristote, c'est toute la physique qui tombait, enfin la connaissance de toute la science de l'époque qui tombait. Et ça, comme la science avait été attachée, d'Aristote avait été attachée à l'Église et au concept de l'Église par saint Thomas d'Aquin, c'est vous touchiez au concept de l'Église. Donc, pas question. Elle n'a visiblement pas été répertoriée, ni par les Chinois, ni par les Américains, ni les Indiens d'Amérique, etc. Donc, on a un vrai problème de savoir pourquoi elle était tellement sombre, alors qu'elle n'est pas très loin. Elle aurait dû être très visible. Alors, est-ce qu'elle était cachée dans un nuage? Est-ce qu'elle a été sous-lumineuse et qu'on ne l'a pas repérée? Mystère. Bref, vous avez son l'onde de choc qui est notée en rayons X ici à l'avant par des électrons qui accélèrent dans cette onde de choc. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Donc vous voyez que l'onde de choc est très à l'avant. Et en fait, ici, ce que vous ne voyez pas, parce qu'il est trop chaud, et il est à des centaines de millions de degrés, et du coup, il sort de la bande d'émission thermique des rayons X qu'on a là, qui sont plutôt basse énergie, de quelques centaines d'électrovolts jusqu'à quelques kiloélectrovolts. Là, il nous faudrait des centaines de kiloélectrovolts pour le voir. Et donc là, c'est le milieu interstellaire choqué. Et ici, vous avez la discontinuité de contact, qui est très nette. Et vous avez le milieu des éjectables d'étoiles choqué. Et là, vous avez le choc en retour. Et à l'intérieur, les éjectables qui étaient partis. Donc cette structure n'est vraiment pas une invention de la loi des gaz parfaits. Donc le but de cette première demi-heure qui va nous rester, c'est de voir va être le futur développement de cette onde. Donc du choc avant, c'est le plus facile à repérer. Et on va avoir, c'est le résumé de tout ce qu'on va dire rapidement, c'est que vous prenez une explosion de supernova, c'est 10 puissance 44 joules qui se dépose. Ça vous dit pas grand chose, mais ça vous dit que si vous prenez toute la puissance lumineuse du Soleil intégrée sur toute sa vie, en gros 8-10 milliards d'années, et vous déposez ça en quelques secondes. Donc ça vous donne l'ordre de grandeur. Là j'ai pris 1,4 masse solaire d'éjecta parce que c'est un standard pour une petite supernova, et je le fais se promener dans un milieu normal du milieu interstellaire, c'est-à-dire entre 0,1 et 1 par centimètre cube en atomes d'hydrogène. Donc vous voyez le niveau de dilution, 10 puissance 20 en dessous de l'air ici, on est largement en gaz parfait. Donc on a trois phases, enfin 4 ici, c'est théorique et la nature fait ce qu'elle veut. On a trois schémas simples de pensée. On a la première phase en expansion libre. Ensuite, on a la phase de send-off qui est conservation d'énergie. Et ensuite, on a la phase de conservation de la quantité de mouvement avec des astuces de pression interne ou pas. Donc, on va voir ça. Donc, pour la phase d'expansion libre, on en a l'exemple que je vous montre au début de la supernova de 93. Mais on a aussi cet exemple qui est trop jeune, hein, quelques 10 ans, on n'a pas de recul. La phase d'expansion libre va durer typiquement quelques siècles. Et donc, on en a un autre ici, qui est Tycho, qui a explosé en 1572. Vous voyez l'image, enfin une gravure de l'époque, qui montre que cette étoile était extrêmement visible. Elle était visible en plein jour. Celle du crabe en 1054 a été visible deux jours pendant trois semaines. Ça donne le niveau d'éclairement. Et voilà le dessin d'origine de Tycho Brahe qui a indiqué que je ne vois pas d'ici. Voilà, c'est I, c'est la nouvelle étoile. Alors, après, vous trouvez où est le I. D'ici, j'arrive pas à voir. J'ai trop de... au centre. Donc, voilà le dessin qui montrait que cette étoile a explosé à ce jour-là. Et voilà ce qu'il en reste aujourd'hui pour nos télescopes. Donc, on voit très bien l'onde de choc à l'avant, le milieu interstellaire choqué qui est là. La discontinuité de contact, et là vous voyez très bien les instabilités de Rayleigh-Taylor, et tout, on dirait une éponge. Et puis ce qu'on voit moins bien, c'est le choc en retour qui est quelque part derrière ici. Et donc cette phase va se calcule de manière extrêmement simple. C'est la vitesse est à peu près constante, puisqu'on n'a pas encore ralenti suffisamment. Et donc c'est le rayon est égal à la vitesse fois le temps. Jusque-là, je ne vous ai pas pris en vache hein, pour les équations. Donc, pourquoi cette phase est si simple ? Ben, c'est que, en fait, vous n'avez que le mouvement du piston, qui est un mouvement balistique, et tant que vous n'avez pas avalé au choc suffisamment de matière extérieure, vous ne l'avez pas encore ralenti, donc vous dites vitesse égale constante, et voilà. Et ça va durer quelques siècles, un siècle, deux siècles, trois siècles, ça dépend essentiellement de l'énergie ici éjectée, donc de la masse des éjectats, versus la masse, la densité du milieu interstellaire, c'est-à-dire ce que vous allez ramener en aval au fur et à mesure de l'expansion. Donc tant que vous avez les éjectats qui dominent en masse sur ce que vous avalez, aucun problème. Voilà l'équation difficile pour vous réveiller. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? La phase suivante, c'est qu'on commence à avoir un système qui rentre de la masse, donc ce n'est pas complètement un système fermé, mais l'hypothèse sur laquelle on va pouvoir s'accrocher, c'est le fait que le système perd très peu d'énergie par rayonnement, parce que les gaz sont tellement chauds, et on va le voir dans un instant, un gaz très chaud, ça rayonne très mal, et ça n'a pas beaucoup d'efficacité à perdre de l'énergie. Donc du coup, on va dire qu'on ne perd pas d'énergie par rayonnement, donc l'énergie totale est constante. Et ça, c'est l'hypothèse qu'a prise Sedov, et ça s'appelle la phase de Sedov, pour calculer l'expansion des champignons nucléaires au départ. Et la petite histoire dit qu'il a fait ce calcul de cette méthode-là. Et je vous raconterai pourquoi ça a scié un peu les gens. Donc, si vous avez une énergie totale constante, ça ne peut marcher que parce qu'on a plusieurs hypothèses derrière. Vous avez... Oui, c'est bien écrit. Vous avez la masse... on passe du mode balistique au mode adiabatique quand on a la masse avalée qui devient, elle, dominante. Parce que tant que vous avez les éjectats, vous êtes en balistique. Quand vous êtes à l'opposé, c'est que la masse balayée est plus importante que les éjectats. Donc c'est l'alourdissement de l'onde de choc, mais qui a son énergie constante, qui va dominer l'expansion dynamique. Donc l'alourdissement domine, et on l'a vu que la pression externe n'a rien à voir avec la pression interne derrière la discontinuité, elle est énorme. Donc du coup, on peut complètement négliger l'influence du milieu extérieur en pression, il ralentit pas. C'est pas la pression externe qui ralentit. Donc du coup, le rôle de la masse des éjectats et de la pression externe sont totalement négligeables dans cette histoire-là. Il ne reste que le rôle de l'énergie totale, qui est l'énergie déposée par la supernova au décollage, et l'énergie qui va se conserver. Or, l'énergie totale se conservant, une énergie, ça a une dimension d'une masse, une longueur au carré et un temps puissance moins 2, et quand vous avez une expansion sphérique qui s'appliquait à peu près à un champignon nucléaire ou à un reste de supernova, c'était assez facile de faire un raisonnement de ce genre d'équation dimension, parce que la masse, je la connais, c'est la masse balayée, donc c'est 4 tiers de pi r3 fois la masse volumique externe, Et le, quelle est la dimension caractéristique d'une sphère? Ben, il n'y en a qu'une, vous prenez le diamètre ou le rayon, ben, c'est la même chose. Donc vous mettez la, le rayon ici, le temps, ben, j'en ai qu'un. Donc on se retrouve avec la masse ici, 4 tiers de pi r 3 rho, fois le rayon carré fois t moins 2, ben, ça vous fait quelque chose qui est une constante, la, la masse volumique externe, le rayon puissance 5, le temps puissance moins 2. Donc vous savez que le rayon va croître comme la puissance t de 5e. Et que c'est proportionnel à l'énergie totale en puissance 1 cinquième et que c'est proportionnel à l'inverse 1 cinquième de la masse volumique extérieure. Et puis, bah, le proportionnel, vous le transformez avec une constante et après, la physique, elle devient beaucoup plus compliquée pour trouver cette constante. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que M. Sedov a mis assez longtemps, c'était un académicien russe, théoricien analytique, il a mis du temps à essayer de calculer ce chiffre pour trouver que c'était 1,15. Donc autant dire 1. Ça a été dramatique pour lui de trouver qu'à la fin c'était aussi simple. Mais surtout, là où il a épaté tout le monde, c'est qu'il avait été invité à un tir, apparemment, un des premiers tirs. C'est un grand nom de la physique, Sedov. C'est un grand ours que j'ai rencontré quand j'étais étudiante. C'est un énorme nom. Il a bûcheron au Canada, c'était à peu près l'allure qu'il avait. C'était un géant. J'étais petite à l'époque, mais enfin quand même. Mais surtout, l'histoire dit qu'il a totalement épaté les généraux militaires qui l'avaient invité au tir parce qu'il a regardé l'explosion. Ils étaient au large, bien sûr. Mais il a regardé l'explosion, il a pris un petit bout de papier, enfin des petits bouts de papier, puis il a laissé les petits bouts de papier tomber. Et puis il leur a dit après, quelques minutes après que le choc est passé et tout, il leur a dit, ben voilà, votre bombe, elle fait tant de puissance. Et évidemment, c'était top secret, ça vous imaginez bien, les bombes nucléaires russes, il n'était pas question que le chiffre circule. Et lui, il l'avait calculé comme ça, parce qu'il avait fait ça à 200 à l'heure, il avait trouvé ça, il connaissait la masse volumique de l'air, il connaissait le temps, parce qu'il a vu quand le petit papier a reculé, quand l'onde de choc est passée, et puis terminé. Il avait avec son 1 ici, qu'il n'avait pas encore fait, hein, c'était le début. Mais l'ordre de grandeur, il l'avait, effectivement, donc il a apparemment paniqué tous les militaires, qu'on pouvait calculer aussi facilement l'énergie de leur fichue bombe secrète. Bref, donc on peut faire un calcul un tout petit peu plus sophistiqué, mais à peine, puisque pour vous faire sentir que c'est vraiment l'énergie de la supernova qui se dépose dans les milieux choqués, parce que en fait, ici, vous avez l'énergie de la supernova. Vous vous rappelez que derrière le choc en aval, hier, on avait dit, je vous l'ai passé, mais il y avait une capacité à faire de l'équipartition vue de l'extérieur. Quand on était l'observateur extérieur, il y avait autant d'énergie cinétique qui passait dans la partie thermique que dans la partie mouvement d'ensemble. Et que les deux, c'était égal à 9/32e de la vitesse si on prenait un gaz parfait pour le rapport adiabatique gamma de 5 tiers. Donc si vous prenez que l'énergie de la supernova se dépose sur la masse balayée ici et que vous avez deux fois la même énergie cinétique 9/32e de R point, donc la masse balayée, bah, c'est toujours mon 4 tiers de pi r 3 rho, et vous mettez discrètement un facteur de vent qui va tenir compte du fait que c'est pas complètement sphérique, qu'il y a des inhomogénéités, etc., mais c'est quelque chose que vous approchez de 1, bah, vous faites le calcul un petit peu plus précisément, et là vous vous retrouvez avec une équation en dimension avec R3, R.2, et non pas simplement R5, T-2, R3, R.2 égale N constante. Donc vous cherchez des solutions auto-similaires, vous trouvez donc quelque chose qui va être proportionnel au temps. Le R3, R.2 égale N constante, ben ça vous donne en différentiel que 5N-2, ça c'est l'indice, 5N-2 égale à 0, donc vous retrouvez la dépendance en temps puissance de 5e. Et là, vous allez retrouver avec la constante de proportionnalité en redéveloppant, maintenant que vous connaissez la puissance ici, vous redéveloppez ça et vous trouvez cette expression qui vous donne la constante. Et vous tirez sur le fil et vous trouvez cette expression. Et après, pour le rayon et pour la vitesse, on peut la mesurer sur des expansions de reste de supernova. Le rayon, on peut le mesurer si on connaît la distance. Et on se cale et on trouve qu'effectivement, les facteurs phi ici sont pas très loin de 1 parce que c'est vraiment, vous avez vu sur les photos, les premières phases d'expansion sont tellement bien sphériques, que ce soit sur Jupiter ou sur un reste de supernova, qu'on est très clair. Mais vous voyez, c'est vraiment la dynamique du gaz choqué, avalé sur la route qui va ralentir et qui va faire qu'on a une expansion gérée en t puissance de 5e. Donc, pour montrer des exemples, vous avez ici une autre supernova, Kepler, qui est à la transition entre mode balistique et début de phase adiabatique. C'est-à-dire que le ralentissement commence à se faire sentir un petit peu. Alors, vous l'avez ici, l'image en infrarouge. Et en infrarouge, on voit essentiellement les éjectas derrière, qui sont chauds. Et vous avez... Toujours pareil, le milieu interstellaire choqué qui est à l'avant ici, il est tellement chaud qu'on ne le voit pas dans cette gamme, c'est pas la bonne gamme pour le voir. Mais par contre, vous le voyez ici, vous avez l'onde de choc, alors en rayons X normaux, donc là vous voyez essentiellement la partie éjecta choquée et vous voyez un petit peu du milieu interstellaire choqué, et puis l'onde de choc qui est à l'avant ici, c'est du synchrotron, ça n'a rien à voir, c'est pas du thermique. Et quand on passe en rayons X durs, l'image de l'année dernière, prise par un nouveau télescope en orbite, vous avez très nettement les électrons chauffés à l'avant ici, et puis vous avez le milieu interstellaire qui est encore toujours dur à attraper, et puis les éjectas et le choc en retour qui est là. Donc vous voyez cette structure un peu simple de la boule que je vous ai dessinée se retrouve assez bien dans les mesures. Alors quelle est la suite de cette aventure d'expansion ? Merci Clémence. La suite de l'aventure, bah, on a donc balistique, ensuite on avale la matière, on ralentit, mais on conserve l'énergie. Et puis quand les pertes radiatives vont commencer à peser trop lourd dans le bilan, on va être obligé de faire craquer l'hypothèse de Seedorf adiabatique. Donc pour la faire craquer, alors voilà la courbe de refroidissement par rayonnement typique d'un gaz dans l'univers ici. Proche, j'entends, avec la métallicité, c'est-à-dire les éléments qui ne sont pas l'hydrogène et l'hélium, qu'on a autour de nous. Vous voyez ici, donc ça c'est le taux de refroidissement, c'est la puissance par unité de volume. Ce taux de refroidissement, vous voyez que si vous faites rayonner les atomes, ça c'est la recombinaison de l'hydrogène avec son électron, ça c'est la même chose pour le carbone et l'oxygène et le silicium. Vous voyez que ces quelques atomes légers génèrent le plus gros de la puissance de rayonnement. Sauf que ça ne marche que si vous êtes en dessous du million de degrés. Si vous êtes au-dessus du million de degrés, vous voyez qu'il y a presque deux ordres de grandeur de moins d'émissions radiatives. Et donc c'est très dur de faire refroidir. Il n'y a plus que l'interaction de rayonnement de freinage, un électron qui prend des virages autour des noyaux du gaz ionisé. Et ça c'est en rayons X. Il n'y a plus, et c'est ce que vous voyez sur les photos des X précédentes, vous voyez pas du tout, très peu de pertes, de déperdition d'énergie. Et donc, tant que le reste de supernova est encore très 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 chaud, et bien, il va pratiquement pas perdre d'énergie. La phase adiabatique est correcte. Par contre, quand il va commencer à perdre de la température dans le milieu aval, là, on va rentrer dans le rayonnement optique. Et le rayonnement optique, là, commence à prendre un coût prohibitif. Or, la température derrière le choc, je reviens sur les équations d'hier, il y avait un truc qui traînait dans les transparents qui était ça, et ça vous montre que comme la vitesse dépend en T-3/5 dans la phase de Seedorf, ben là, vous êtes au carré. Donc, vous voyez que ça diminue presque en inverse du temps. Donc, vous avez une température aval qui diminue assez rapidement, et assez rapidement, on parle du un millier d'années à peu près. Hein. Et donc, dès que vous allez passer la barre fatidique du million de degrés, là, vous allez enclencher les pertes radiatives très violemment. Et ça se calcule, l'ordre de grandeur, ça se calcule en disant que le temps radiatif doit être à peu près du même temps que l'âge. Et si le temps radiatif, c'est la puissance, c'est l'énergie interne, hein, 3,5 de NKT, dans le milieu aval divisé par cette courbe qui vous donne la puissance en fonction de la température. Et vous regardez, il y a une époque de transition, quand l'un gagne, c'est qu'il faut le prendre en compte. Et si on le prend en compte, c'est un effet catastrophique, parce que un rayonnement qui coûte cher, c'est même là ou là, ce sont toujours, il faut deux acteurs pour rayonner. Soit il faut un électron qui se recombine, soit il faut un électron qui prend des virages autour d'un noyau. Mais il faut toujours deux acteurs, donc c'est proportionnel au carré de la densité. Donc si vous démarrez, et la fonction ici que je vous donnais, c'est juste la partie température, c'est pas la partie, j'ai recopié, si elle est là. La puissance réelle rayonnée, c'est le carré de la densité fois cette fonction-là. Donc, si vous avez refroidissement radiatif quelque part, bah, vous allez condenser le gaz. Ça, c'est un truc qui est très vache en astro, c'est que quand vous condensez un gaz parfait en milieu interstellaire à cause des pertes radiatives, vous le densifiez, ce qui est exactement le contraire de... Non, c'est pas le contraire. Non, je dis une bêtise, c'est sur la température. Donc, vous allez densifier le gaz. Si vous densifiez le gaz, vous augmentez les pertes radiatives au carré, et donc vous le densifiez encore. C'est un effet boule de neige. C'est un effet catastrophique. Donc, là où ça va commencer à rayonner, ben, vous allez faire une densification rapide qui va rayonner encore plus. Donc, votre reste de supernova, qui était une boule assez homogène, assez diffuse, va devenir ourlée ici, aux endroits de refroidissement, de filaments extrêmement minces et très radiatifs en optique, avec toutes les raies d'émission des atomes. Et à l'intérieur, vous aurez encore ce gaz diffus, très chaud, millions de degrés, et ces filaments qui descendent en dessous du million de degrés, vers centaines de milliers de degrés, qui vont se devenir nets. Alors si je fais un schéma beaucoup plus simple, j'ai le choc avant, j'ai une coquille radiative qui se met en place derrière, qui est très fine, puisque ça se densifie, toute la quantité de matière, il faut que je la prenne là, donc si je la mets plus dense, il faut que j'en prenne moins en volume, et puis bon, un peu de gaz chaud qui reste derrière, et les éjectables choqués derrière. Et voilà le genre de photo que ça vous fait. Le choc avant est quelque part là. Ici, vous avez la partie arrière, et là, vous avez ces filaments très lumineux en optique, et on voit tout de suite que ça se cristallise vraiment sous forme de filaments à cause des effets radiatifs en densité de la carré de la densité. Et donc, à quelle époque ça se situe ? Ben, ça se situe quand le reste, cette transition radiative, c'est à peu près quand le reste de supernova a quelques 40-50 années-lumière, c'est-à-dire à peu près au bout de 10 000 ans. Et des vitesses qui sont encore du choc avant, qui sont encore de quelques centaines de kilomètres par seconde. On n'a pas encore complètement ralenti. On est parti d'accord à 8-10 000, mais on est encore à 400 kilomètres par seconde. Et là, bah, vous avez deux possibilités. Alors ça change pour l'objet, ça change. Mais c'est le même raisonnement. Toujours des raisonnements en équation simple, parce qu'après, le pas, c'est ou bien on fait de l'ordre de grandeur comme ça, avec des petits facteurs correctifs, mais on fait surtout ce raisonnement toujours à base de fonctions autosimilaires, des lois de puissance, ou bien on part carrément sur des simulations hydro-complexes. Il n'y a pas l'intermédiaire, on peut analytiquement suivre les choses de manière un tout petit peu plus sophistiquée. Donc ensuite, une fois qu'on est obligé de faire craquer l'hypothèse adiabatique, bah, la seule hypothèse qui reste, c'est conservation de la quantité de mouvement. Alors là, c'est de la conservation totale de quantité de mouvement dans les phases ultimes. Là, c'est de la conservation partielle dans le sens où on tient quand même compte que là, il y a encore un gaz chaud qui a une pression interne très importante. Donc la boule est surgonflée et elle a tendance à avoir des murs qui se poussent à l'extérieur parce qu'il y a un petit coup de pouce de la pression à l'intérieur. Mais c'est tout. Là, vous voyez, j'ai écrit que la conservation de la quantité de mouvement, c'est l'intégrale de la pression intérieure sur la surface. Je réutilise, puisque je suis encore en phase où les pertes radiatives ne sont pas énormes, en tout cas elles ne le sont que sur le bord ici, je suis partie dans le mauvais sens, elles le sont là, elles ne le sont pas dans la grosse masse ici. Donc dans la grosse masse ici, j'utilise PV gamma égale constante, adiabatique, et ça me fait une équation qui est en R3 R point, qui est proportionnelle à R2 R-5, je prends une loi de puissance, et je trouve que l'expansion va être en T puissance 2/7. Et bon, là, je vous ai juste mis la tendance, mais après, les facteurs multiplicatifs devant, on les fait proprement. Et à la fin, vous n'avez même plus le petit coup de pouce de la pression interne, vous avez juste conservation de la quantité de mouvement, et ça va vous faire quelque chose qui est en T puissance 1/4. Donc, et après, vous vous raccrochez sur les observations pour trouver les constantes qu'il faut. Donc, vous voyez que ce sont des raisonnements très simples, mais ils datent des années 70-80, mais c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'après, ça vous permet quand même de comprendre si les gros codes disent pas trop de bêtises parce qu'on doit quand même rester autour de ces hypothèses-là. Si on a des comportements qui ne sont pas reliés à ces hypothèses-là, on s'inquiète sur la validité des hypothèses qu'on a utilisées dans le gros code. Et quand vous voulez faire un ordre de grandeur rapide sur une observation, sur un objet, et là je vous parle du reste de supernova, mais vous pouvez le faire dans plein de géométries différentes, simplement il faut écrire les choses un peu plus propres, mais les étapes que j'ai utilisées s'écrivent exactement de la même manière. J'ai lu en diagonale deux papiers sur la cratérisation, c'est exactement les mêmes choses qu'ils font. Donc c'est vraiment un raisonnement général. Et voilà la phase radiative. Donc vous avez le reste de supernova, donc sa Vela doit avoir quelque chose comme 20 000 ans à peu près. Donc en phase radiative, vous la voyez en rayons X, ici, mou, donc on voit le choc avant. Vous voyez que le choc avant n'est pas homogène, hein, parce qu'on rentre dans un milieu interstellaire compliqué, donc il y a des endroits où ça freine, d'autres moins. Donc, puis les éjectons n'étaient pas homogènes non plus. Donc l'approximation sphérique, elle tient jusqu'à un certain point. Vous voyez qu'il faut se méfier parce qu'un train peut en cacher un autre. Si vous prenez une image en rayons X dur, bah ici derrière, pendant longtemps les gens se sont dit mais pourquoi les températures là vont pas, il y a quelque chose, bah c'est parce qu'il y a un autre phase de supernova qui est juste derrière, donc, et qui est plus jeune, plus chaud. Donc là vous voyez l'ancien reste de supernova planqué qui passe devant un autre reste de supernova plus jeune. Et voilà ce que ça donne en optique. Donc on voit que sur les bords ici, ces filaments radiatifs sont là. Par contre, dans la boule, il y a encore plein de gaz chaud qui poussent. Et donc, comme je vous le disais, sur les cratères, ils utilisent ce même genre de raisonnement. C'est-à-dire qu'ils partent sur la phase adiabatique et après, avec des stress. Donc il y a deux différences par rapport à ce que j'ai utilisé. C'est qu'il faut rajouter la gravité quand même. Ça déforme plus vers le bas que sur les côtés. Et vous avez surtout, vous rentrez dans un milieu qui a la capacité de réagir de manière élastique, de fondre, etc. Donc il faut prendre en compte des tas de tenseurs de stress en plus. Mais apparemment ils le font, mais ils le font surtout avec, alors je pense qu'après ils passent sur des modèles compliqués comme nous, mais pour comprendre ce qu'il y a derrière, j'ai pas retrouvé le nom de la personne, des articles, j'ai laissé bêtement l'article à la maison. Les raisonnements sont exactement les mêmes, c'est-à-dire qu'ils partent sur des solutions auto-similaires, c'est-à-dire des lois de puissance en fonction du temps. Là, en l'occurrence, c'est la pression qui est proportionnelle au rayon, et c'est ce qu'ils utilisent, et c'est ce qui vous donne ces courbes ici, qu'ils essaient de valider après avec des prises de matériaux sur le terrain pour voir les propriétés qu'elles ont subies de chauffage, de surpression, pour arriver au métamorphisme dont elles sont caractéristiques. Et vous avez la structure en double choc, puisque vous avez, là, vous avez les profils de pression qui modélisent. Donc vous avez le choc avant qui est hémisphérique et vous avez le choc retour qui rentre dans le météore qui n'est pas encore fondu. Tant qu'il n'est pas fondu, il se prend un choc retour, d'abord parce qu'il faut le ralentir, donc c'est le travail du choc retour de le ralentir, et puis il va déposer l'énergie de ralentissement du choc retour, c'est-à-dire en énergie cinétique pour le faire chauffer et le vaporiser. Et quand le choc retour arrive sur la face arrière, eh bien, ça donne l'onde d'éjection, de raréfaction, qui fait que vous avez l'explosion derrière. Donc, la même structure, le même phénomène. Et pour voir une autre petite variante, qu'est-ce qui se passe si vous avez un choc qui est suffisamment radiatif, très radiatif? C'est ce qu'on va appeler un choc isotherme. C'est fou d'appeler un choc isotherme, parce qu'on a vu qu'il y a un saut de température en nombre de Mach au carré derrière le choc, donc c'est quelque chose de fou, mais c'est pas fou. C'est un abus de langage, mais c'est simplement pour se rappeler qu'en fait on va arriver avec un milieu qui a une température, derrière le choc on va thermaliser à fond l'énergie cinétique, ça va être très chaud, et on va perdre l'énergie radiativement très vite, ce qui fait qu'on va redescendre à la température extérieure très rapidement, et donc ça va être une coquille où il y a un choc et vous arrivez de T1 et vous allez ressortir à T1. Donc c'est ça, le choc isotherme. Et vous en avez un superbe exemple sur cette image. Vous avez un reste de supernova qui lui a explosé en 1006. Ah, je vais oublier de vous mettre les dessins de la carapace de tortue qui vous dit que c'est la 7e étoile du jour, je ne sais pas quoi, en 1006 qui a explosé grâce au chinois. Ça a été gravé sur une carapace de tortue. Je vais essayer de vous la remettre parce que c'est tellement joli. Je ne parle pas de chinois ancien, mais le graphisme est joli. Donc vous avez ici ce reste d'explosion, donc vous êtes 1006, vous êtes à 1000 ans, dans un milieu normal on est en phase de Seedorf, là on est au début de la phase de Seedorf, donc expansion bien sphérique là, vous voyez la discontinuité de contact ici, et vous voyez ce mur ici d'émission optique, donc émission optique vous faites tilt, oula c'est radiatif, et on le voit aussi que ça a été le reste de supernova s'est pris un mur. Là. Regardez comme il est raplati, alors que là, il est bien sphérique. Donc visiblement, il est rentré dans un mur de forte densité et il s'est mis à être beaucoup plus radiatif parce qu'on a augmenté la densité. Ralentissement, diminution de la température en aval, qui est en carré de la vitesse, donc ça chute très vite. et en prime de la densité qu'il fallait pour devenir très radiatif. Et donc ça, c'est un exemple de choc isotherme, c'est-à-dire que c'est tellement fin que là, vous arrivez à une température T1, là, vous avez une structure de choc chaude, mais très vite derrière, vous allez revenir à la condition presque extérieure, sauf que ce n'est pas tout à fait les mêmes densités, les mêmes pressions. Voilà un autre exemple. Les chocs isothermes, ça s'applique très souvent aux bulles de vent des étoiles. Vous avez ici une étoile très massive, de la classe des 50-60 fois la masse du Soleil, et qui a soufflé une partie de sa périphérie avant d'exploser un jour en supernova. C'est très instable, les moteurs nucléaires à l'intérieur. Et donc, il y a des gradients de pression qui montent, qui descendent, etc. Les enveloppes à l'extérieur finissent par se détacher. Et se détachant, elles sont poussées par la pression de rayonnement. La pression de radiation est tellement énorme sur une étoile comme ça. Ça, c'est je ne sais pas combien de centaines de fois plus lumineux. Non, ça doit être même pire. On doit être dans les milliers de fois plus lumineux que le Soleil. Donc, la pression de rayonnement est tellement intense que ce gaz qui a tendance à se détacher, il va partir, voile solaire, littéralement, pour partir. Vous en avez ici un exemple, autre. Là, c'est un amas d'étoiles, dont certaines très massives comme ça. Et vous avez tout le gaz ici qui est ionisé avec tous les ultraviolets qu'il y a là, et qui est ionisé. Et la phase d'expansion de l'ionisation crée une onde de choc. Parce que vous avez un milieu ici où il y a au moins deux fois plus de pression qu'à l'extérieur. Là, vous n'êtes pas ionisé, là, vous êtes ionisé. Donc, il y a protons et électrons séparés, ça fait au moins deux fois plus de pression. Mais ça en fait plus derrière parce qu'il y a de l'énergie thermique qui s'est déposée. Et donc, le front d'ionisation va avancer avec une onde de choc. Et là, ce sont des ondes de choc qui font des dizaines, des centaines d'années-lumière. Mais qui sont très puissantes parce qu'ils ont la partie cumulée de tout ce qui les soutient derrière et qui continue. Autre exemple, les nébuleuses planétaires. Ça, c'est la fin de vie des étoiles normales, comme notre Soleil. On vivra ça un jour. Je vous rappelle que ce jour-là, la Terre sera à peu près à ce niveau-là. Au début, elle va être juste au bord, là, mettons que ça sera ça, juste au bord du Soleil, et puis la nébuleuse planétaire nous passera complètement dessus. Ce sont des objets qui font des années-lumière, donc on sera englouti là-dedans dans quelques milliards d'années. Pas beaucoup, hein, 4-5, pas plus. Donc, voilà une nébuleuse planétaire, et voilà une autre. Et pareil, là-dedans, ces ourlets, ce sont les ourlets de propagation, donc de choc. La différence entre une grosse étoile et une petite, c'est que vous voyez qu'une grosse étoile perd en fin de vie quelque chose comme un 100 000e de la masse solaire par an, alors qu'une petite étoile, en fin de vie, c'est 10,8 masse solaire par an. Donc, c'est pas du tout les mêmes quantités de matière qui sont expulsées. Mais l'onde de choc derrière est la même. Donc voilà comment l'onde de choc dite isotherme fonctionne. Donc vous avez le milieu où ça s'assied sur le choc, comme d'habitude. Vous avez le milieu amont qui arrive donc avec la vitesse moins V le choc, U1, qui ralentit derrière le choc à moins V choc sur R, avec le rapport de compression qu'on a vu hier. Et vous avez la densité qui va augmenter avec ce rapport de compression, ρ2 égale R sur ρ1. Et la température et la pression qui sont devenues gigantesques derrière le choc. Or, cette couche-là peut atteindre des densités telles que la puissance radiative devient dangereuse à cause du terme de Rayleigh carré. Et donc, du coup, et puis parce que vous êtes assez bas en température pour que ça fonctionne bien, je vais vous corriger, ça c'est un T-1,5 qui doit être en haut. Donc, vous rentrez dans ce régime-là et vous avez des densités telles que ça fonctionne très bien. Du coup, vous allez perdre beaucoup de l'énergie dans cette petite coquille très mince. Et vous allez redescendre derrière à une température qui ne sera pas très différente de l'amont. Et donc, vous avez, en fait, tout le choc là, on va le ramener à rien. Là, il y a des chocs amont et retour. Puis on va le ramener à rien. On va dire qu'on est sauté directement de P1 à P3, de ρ1 à ρ3 et de T1 à T3, avec T3 presque équivalent à T1. Alors, pour ça marche. Ça, c'est dit ce que j'ai dit tout à l'heure. Je l'ai juste rappelé là. C'est que le temps caractéristique de rayonnement là-dedans, c'est l'énergie interne, 3/24 T, divisé par la puissance radiative, et avec simplement la température avale, qui dépend de la vitesse du choc, ce qui fait que vous voyez que les pertes radiatives vont varier comme la puissance quatrième du choc. Donc dès que vous ralentissez, ou dès que vous allez vite, ça peut être très très différent. Et si les pertes radiatives, la longueur caractéristique de rayonnement là est plus grande que le système, ça vous dit que vous êtes en phase de send-off, vous inquiétez pas. Si elles sont au contraire petites, ça veut dire que ça va réagir sur une très fine couche, et éventuellement vous pouvez passer sur le formalisme de cette phase isotherme. Et la phase isotherme, ben, on a les mêmes relations que Rankine-Hugoniau qu'on avait hier, sauf que j'ai plus droit à la conservation de l'énergie. Moi, je suis radiatif. Hein. Toute l'énergie part à l'extérieur. En fait, la grosse différence entre les chocs précédents et ce choc dit isotherme, c'est que dans les chocs précédents, j'avais une pression ici, une température qui était une densité, le gaz était soutenu par son énergie interne, quelque part. Et là, à chaque fois qu'on crée de l'énergie interne avec le choc, en aval, on va la rayonner très vite. Donc, on va pouvoir atteindre des taux de compression énormes ici, parce qu'à chaque fois qu'on comprime, au lieu de soutenir avec la température et la pression thermique, on va rayonner cette énergie. Donc, on va pouvoir densifier bien davantage que dans un choc dit paradiatif. Et donc, si on peut voir ça rapidement, on écrit la conservation de la masse, parce que ça, elle passe toujours à travers le choc, il ne faut pas que j'en perde. Rho1, E1 égale Rho3 et 3. Donc, vous voyez, je passe directement de la phase amont à totalement aval derrière la partie toute choc. La quantité de mouvement, bah, c'est toujours la même, hein, P plus Rho V2 qui est constant, Bernoulli. Et je saute de T1 à T3, parce que je rayonne toute l'énergie. En fait, le Rho U1 carré, il est parti directement dans le rayonnement. Donc, j'ai T1 égale à T3, ça me donne une relation de fermeture qui est que la vitesse du son est la même, puisque c'est la même température, donc P1 sur Rho1 égale P3 sur Rho3. Et j'ai ces deux équations qui me permettent rapidement, si je combine ces deux-là, ça veut dire que Rho3 est une fonction de U1 qui est toute bête, c'est une équation du second degré. Je peux tirer sur le fil. J'ai deux racines. Alors évidemment, il y a une racine triviale, U3 égale à U1, ça veut dire qu'il n'y a pas de choc, c'est pas très intéressant. Et l'autre racine, elle est là. Et cette racine, c'est U1 sur 2, U3 est égal à la moitié de U1, 1 plus ou moins quelque chose, avec le nombre de Mach ici en bas. Or, le nombre de Mach est important, il est au moins de quelques dizaines. Donc au carré, ça fait quelques centaines. Donc je peux faire Taylor ici. Ça fait donc que le 2 enlève celui-là et je me retrouve avec U3 égale U1 sur M1 au carré. Ce qui veut dire que le rapport de compression, qui n'était que de 4 dans un choc normal, dans un choc très radiatif comme ça, eh bien, il devient le nombre de Mach au carré. Et ça peut devenir un facteur gigantesque. Si vous avez un nombre de Mach de 100 qui est assez classique, vous prenez un facteur 10 000 de compression. Et c'est pour ça que sur la photo ici, vous voyez ce filament extrêmement fin, alors qu'ici, vous voyez quelque chose qui est beaucoup plus diffus, parce que c'est soutenu là par la pression thermique, alors que là, toute l'énergie thermique est partie dans le rayonnement. Donc, ces chocs isothermes, on peut les utiliser. Donc là, ils sont modélisés juste pour vous faire comprendre ce qui est derrière, hein, bien sûr. Et on voit qu'effectivement, la pression P3, c'est Rho1 U1 carré. Donc, tout est parti derrière en rayonnement et là. Donc, vous avez cette structure de choc radiatif qui va être un petit peu différente de précédemment. C'est-à-dire que vous avez le choc avant, vous avez une couche très très mince derrière qui va rayonner et qui va perdre. Et puis, vous avez le reste du choc du gaz choqué derrière, le P3, et ça marche pour des vents stellaires. Alors comment marche un vent stellaire? C'est pour ça que je voulais le voir avec vous, parce qu'on a une structure qui est un choc stationnaire. Ça n'est plus un choc vraiment en expansion pour la partie ici. Pourquoi? Parce que vous avez un vent qui alimente sans arrêt. Ça n'est pas le coup de... Il était une fois des éjectats qui sont partis, et puis ils avancent, mais c'est fini, il n'y a plus de source. Là, vous avez une source continue d'énergie. La pression de radiation de l'étoile, elle fonctionne en permanence. Ce qui fait que c'est comme ce pauvre choc en retour, il est monté sur un tapis roulant qui lui passe sous les pieds sans arrêt en contresens. Donc, il va trouver une position d'équilibre à force. Et donc, il remonte sur son tapis roulant à l'envers. Ici, il va trouver un choc stationnaire, c'est ce qu'on appelle les chocs de termination shocks, que vous voyez dans les magnétosphères, que vous voyez dans plein d'endroits. C'est le choc du vent solaire, le terminal du vent solaire, etc. Donc c'est vraiment pensé, il est en train de ramer contre son tapis roulant. Sinon la structure, elle est équivalente à ce qu'on avait précédemment. Vous avez un peu d'expansion du choc avant, ça on ne le change pas. Vous avez donc ce choc isotherme, donc P1 et hop, on descend pour revenir aux conditions thermiques ici, avec une température dans le vent, dans la partie interstellaire choquée qui passe à travers le choc ici, qui sera à peu près la température externe. Alors là, je vous ai mis 10 000 Kelvin et pas les 100 Kelvin du cas précédent, parce que là, on est près d'une étoile, donc on a déjà on est dans le vent de l'étoile, on a quelque chose qui est chaud, hein, qui est ionisé surtout, il y a déjà le double de pression, et avec une vitesse du son qui est de l'ordre de 8 km par seconde à peu près. Et vous avez donc le choc retour que lui, on va pouvoir prendre dans les conditions de CEDOF adiabatique. Et parce qu'il rayonne pas beaucoup. Et donc, on va avoir ce choc retour et on va pouvoir gérer où il se trouve avec une équation toute bête. Pourquoi ? Bah, cette équation toute bête, elle me dit quoi ? Elle me dit à quoi sert le choc retour ici ? Il cherche à dire, attention, j'ai un choc à l'avant qui avance, mais qui ralentit. Toujours pareil. Donc, il faut qu'on propage l'info de ce ralentissement pour ralentir le vent à la source. Parce que sinon, il ne peut pas savoir ce qui se passe dehors. Donc, il faut qu'on connecte ici, causalement, ce qui se passe ici et ce qui se passe ici. Donc, l'alourdissement ici fait que je dois transmettre cette info de ralentissement sur le vent lui-même. Et ça, c'est le travail du choc retour. Et donc, on a toujours le même raisonnement. En aval d'un choc, on est subsonique. Donc, cette partie-là, c'est du vent choqué. On est l'aval du choc retour. Et ici, la petite coquille radiative, on est l'aval du choc avant. Ce qui veut dire que subsonique ici, on est en condition où en fait ces deux milieux se mettent en équilibre de pression, puisqu'ils peuvent homogénéiser à peu près leur pression. Et donc c'est la pression ici qui va dire à la pression là, qui va du coup dire au vent, oh stop, il y a un mur qui arrive là, et tu ralentis. Donc c'est ça la fonction du choc retour. Donc si on a un équilibre de pression ici, on va faire avancer cette info sur la partie centrale du vent. Donc ici, on est dans le vent choqué. Le vent choqué, il a... Donc l'amont est ici, l'aval est ici maintenant. Donc là, on a la vitesse U1, c'est le vent, et la vitesse U2, qui est 1 moins 1 sur R comprimé de U1, bah, c'est pour la partie choquée ici. Okay, donc ça, c'est amont-aval, et ici, c'est amont ah bah, c'est deux chocs tête bêche. Donc, si j'écris que la vitesse de cette partie beige, là, c'est 1 moins 1 sur R de la vitesse amont, c'est-à-dire la vitesse du vent, et que j'écris que j'ai un équilibre de pression ici, et cet équilibre de pression, il m'est donné par le flux de quantité de mouvement, simplement, parce que c'est la pression ici, c'est bien la quantité de mouvement que donne le vent par unité de surface et par unité de temps. Or, j'ai un vent qui a un taux de perte de masse 10-5, 10-8, enfin ce qu'il veut, masse solaire par an, et la vitesse, ça c'est le taux dmv sur dt, et je divise par la surface du choc 4 pi r 2. Et je multiplie par la vitesse qu'il me fallait. La vitesse qui était u2 ici, il faut que je suis dans le milieu choqué, u2, et u2 c'était r-1v sur r. Je vais peut-être vous le séparer en deux morceaux pour que vous le voyez mieux ce que j'ai fait. Ce qui veut dire que je suis capable de calculer la pression ici. Et donc, si je connais ce que fait l'étoile, bah, je peux trouver où est la distance du choc terminal. Si je connais la distance du choc terminal dans le système solaire, on sait à peu près où il est, bah, je peux remonter aux conditions de pression. Enfin, vous voyez qu'avec ces ordres de grandeur, qui sont des raisonnements assez simples, là, derrière, vous voyez que je conserve l'énergie, la quantité de mouvement, et puis c'est tout. On peut déjà avoir des tas d'ordres de grandeur sur ce qui se passe. Et ça s'applique au vent solaire, ça s'applique à une magnétosphère de pulsar, ça s'applique à l'étrave de la Terre, ça s'applique à plein d'endroits. Simplement, il faut bien avoir vu cette double structure, le choc avant ralenti, la pression derrière isobare, elle se transmet avec la discontinuité de contact, les deux milieux ne se parlent pas en densité, en température, mais ils se parlent en pression, et ça permet, par le choc retour, de ralentir la cause. C'est le seul moyen qu'elle a de ralentir. Sinon, elle ne sait pas ce qui se passe au milieu extérieur. Étant supersonique, pour rappeler, le nez de l'avion ne sait pas ce qui se passe derrière. Donc, vous avez ici simplement toujours le même genre de raisonnement. On va prendre des lois de puissance pour voir comment cette bulle de vent isotherme va avancer. Bon, on va faire une approximation tout simple pour écrire que deux équations bêtes. On va dire que c'est toujours la même fraction de volume qui avance. C'est-à-dire que je prends entre la couche ici, là voilà, la couche qui est là, je dis que c'est la fraction toujours constante de 1, je fais une homothétie, une fraction constante du volume sphérique de l'ensemble. Donc voilà mon petit phi, et j'écris que je suis en mode chasse-neige, ce qu'on a fait précédemment, donc la variation de la quantité de mouvement, la masse, 4 tiers de pierre, 3 rho externe, fois la vitesse égale bah, la mode chasse-neige poussée par la pression qui est là, hein, celle-là, et c'est la pression que j'avais là, donc 4 pi r 2 p. Et comme je connais P par l'étoile, eh ben je dis simplement que j'ai cette équation différentielle, ça me coupe le dr point, dr seconde et dr, je m'en fiche, c'est des lois de puissance, d'où je trouve l'indice, j'écris que l'énergie totale, ben c'est mon énergie cinétique de l'étoile, par unité de temps, et puis j'écris mes petits termes que j'ai fait précédemment, je vous le passe, vous le lirez si ça vous amuse, mais c'est vraiment exactement les mêmes raisonnements que ce qu'on a fait précédemment, on prend un bout d'énergie cinétique, on le met dans notre objet qui est une couronne, et puis on le réécrit, après on balance une loi de puissance, ça fait une équation, vous diriez, mais c'est une histoire de fou, comment peut-on savoir que le résultat, ben avec des fonctions en loi de puissance, une équation différentielle de R4, troisième dérivée, R3, R seconde, R2, R.3, ça se fait les mains dans les poches. C'est bien pratique. Et vous trouvez en plus les constantes et tout, et vous trouvez voilà, cette formule qui a l'air relativement simple, alors que si je vous avais donné cette équation au départ en disant que vous la calculez. Donc, pensez toujours à ces raisonnements. Très souvent, la nature aime les solutions autocinémiques. Ce sont des solutions qui sont dangereuses d'un point de vue physique, dans le sens où il n'y a pas d'échelle caractéristique, c'est la fonction même d'une loi de puissance. C'est qu'il n'y a pas d'échelle caractéristique. Donc c'est extrêmement embêtant pour se caler. Mais mathématiquement, c'est génial. Donc on peut avoir des ordres de grandeur assez facilement sur ce genre de raisonnement. Je vous ai pris l'exemple des cratères, mais dans les magnétosphères, les gens ne se privent pas dans le vent solaire et dans les magnétosphères de la Terre à faire ce genre de raisonnement pour essayer de trouver où sont les limites géométriques, puis un ordre de grandeur des pressions, des températures qui sont derrière. Après, vous mettez une modélisation super compliquée en route, mais elle est cadrée par ce genre de raisonnement. Et pour vous montrer un truc, alors là, les modèles, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, enfin, il y en a qui travaillent là-dessus, mais je n'oserais même pas être avec eux. Là, vous avez la supernova, la dernière supernova qu'on a vue dans notre galaxie, dans le nuage de Magellan. Donc, une proche a explosé en février 87. Donc, on la suit depuis février 87 pour voir ce qu'elle fait, puis caler plein de choses sur l'explosion d'une supernova. Grosse en plus, c'était une grosse étoile qui a explosé. Donc, elle a explosé dans la bulle de vent stellaire précédente. C'est-à-dire que l'explosion a lieu dans cette structure-là. Et donc, l'explosion a lieu. Donc là, il y a le choc aller et retour des éjectats. Et à l'extérieur, elle avance dans la partie vent normal et vent choqué et la coquille extérieure. Donc vous allez avoir un choc qui arrive à 10 000 km par seconde dans des chocs qui se promènent encore à 400 ou 500 km par seconde. Donc vous avez une double structure de choc qui percute une double structure de choc. Il y a de la physique à faire pour apprendre comment ça marche. Alors, je ne vais pas vous montrer les équations, parce que d'abord, je ne les ai pas, mais ce que je peux vous montrer, c'est le film de ce que ça fait. Voilà le résultat. Là, ce sont des vraies données. Alors, le zoom, ce n'est pas l'expansion, c'est le zoom du film. Vous voyez les restes de supernova en X ici qui avancent. Vous voyez très bien la structure. Les éjectats, vous voyez, et vous voyez qu'ils commencent à percuter la coquille de vent précédente.
Ça, ce sont des données.
Ça, c'est des données. C'est beau, hein? Et alors, vous avez allumé ça au début, et puis quelques jours plus tard, vous voyez, en 2003 par rapport à 87, voilà tous les points ici qui se sont allumés du choc supernova qui impacte le choc coquille.
Quand vous dites la supernova explosant en 87,
c'est qu'elle a explosé en 87 ou qu'on voit l'explosion? Non, elle a explosé en 156 000 ans avant, parce que c'est le temps qu'il nous faut pour que ça arrive. C'est le temps pour nous, celui à partir duquel on voit les observations. Donc 156 000 ans, et on en a abusé de ça, parce que quand les journaux, elle a fait la une du Times, hein, quand même, celle-là. Quand les journaux ont annoncé, il y a une supernova magnifique qui a explosé, etc., on a tous, oui, les journalistes, vous n'êtes pas doués, l'événement n'a que 156 000 ans. On en a très largement abusé, c'est pour ça que je connais le chiffre par cœur. Mais par contre, la séquence a démarré en 87, mais elle est toujours vraie. C'est-à-dire qu'en temps relatif, tout ce qu'on voit là, c'est du vrai temps pour elle. Elle, il y a belle lurette qu'elle est diluée, qu'il n'y a plus les chocs, etc. Voilà. Donc, je ne sais plus à quelle heure on a commencé. 5 minutes, je finis. Il n'y a que des photos, donc ça va. Donc, la structure en double choc, ben, vous l'avez aussi sur un choc en étrave. C'est pas vraiment le choc d'un bateau, mais c'est pareil. Vous avez une structure en étrave parce que vous avez un mouvement qui est supersonique, Et vous pouvez avoir une source, par exemple un vent stellaire, le vent solaire. Pourquoi l'héliosphère a cette forme de choc en épave? Bah, vous avez l'information ici. Vous avez votre vent qui part en expansion et il arrive dans un milieu interstellaire qui va le ralentir. Donc comment on ralentit ce vent? Bah, la seule chose qu'on peut faire, c'est de faire un choc en retour. Donc vous avez le mouvement du soleil par rapport supersonique par rapport au milieu interstellaire. Donc le milieu interstellaire arrive, il est choqué pour se ralentir lui-même, parce qu'il arrive, vu du point de vue du soleil, à je ne sais plus combien on a. Oh, je ne sais plus le mouvement du soleil. Mais bon, ça doit être Mach 10 ou 20, je pense. Donc il faut que ce milieu interstellaire ralentisse, parce que sinon il ne va pas arriver à 400 km par seconde sur le soleil. Et il faut que le vent solaire ralentisse pour se mettre au contact du milieu interstellaire. Donc des deux côtés, il faut un choc. Et vous avez le choc, donc, ici, avec le milieu interstellaire choqué, qui est en équilibre de pression, parce que c'est subsonique, enfin vague, équilibre de pression. Et vous avez le vent stellaire qui arrive sur son choc terminal, retour, qui essaie de faire du pédalo à l'envers ici pour remonter, et qui va faire un vent choqué avec une pression qui va dialoguer avec celle-là. Et donc, c'est cet équilibre de pression-là qui fait que le milieu interstellaire ralentit, que le vent de l'étoile ralentissent et qu'ils arrivent à faire une structure stable. Et tant que l'étoile bouge et tant que le vent est là, ça sera ce qu'on appelle des standing shocks, c'est-à-dire des chocs stationnaires. La distance ici ne bougera pas. Elle bougera un petit peu si le vent a des propriétés qui changent, mais un petit peu, c'est tout. Ça va. Globalement, c'est contrôlé par la vitesse du soleil, un peu moins par le vent solaire. Donc voilà la structure qu'on imagine pour le vent solaire. Et l'héliosphère, donc vous avez ici le choc extérieur qui est la partie milieu interstellaire choqué, la discontinuité de contact entre les deux, elle n'a pas changé celle-là, il y a dialogue de pression mais il n'y a pas dialogue de densité et de température de part et d'autre, il y a simplement équilibre de pression, isobare, et derrière vous avez le vent choqué, le choc terminal du vent solaire et le vent solaire avec nous à l'intérieur. D'accord ? Et ça, c'est un exemple. Et comme je vous le disais, je reviendrai dessus tout à l'heure, c'est la pagaille noire dans les structures, parce que hydro, ça va, PV égale NKT, on tient la route. Quand on rajoute le champ magnétique, même si Alexandre adore ça, ça devient un tout petit peu plus complexe, mais surtout très désordonné.
Les deux sondes dont vous avez parlé au début,
elles sont dans ce coach ? Il y en a une qui est par... Je crois qu'elle a passé l'héliopause, mais je ne me vendrai pas à 100%. Oui, elle doit être par là. Et l'autre, elle... L'autre, elle est peut-être passée. C'est-à-dire qu'elle a peut-être passé ça. Elle est peut-être dans le vrai milieu interstellaire, pas choquée. Parce que, en fait, le problème, c'est que il y a une discontinuité dans les particules, les rayons cosmiques dont on parle tout à l'heure, qui arrivent, c'est clair, c'est net, c'est précis. Or, eux sont sensibles au passage du choc. Et les densités et tout, c'est pas facile à mesurer parce que ce qu'on a, c'est des mesures de particules. Mais par contre, on a des magnétomètres et les champs magnétiques n'ont pas bougé. Et là, ils comprennent pas. Donc, j'ai discuté beaucoup avec Ed Stone, qui était le PI de Voyager, parce que, et il a écrit, si vous regardez son papier, c'est un type brillantissime. Et il a écrit sur le papier, il s'est débrouillé pour ne jamais écrire dans le papier de Science à aucun moment que Voyager était dehors. Il a dit qu'il y a des discontinuités, qu'on voit des trucs. Mais parce que le champ magnétique n'a pas branché, ils ne savent pas trop. On peut être dans une avenue magnétique où les particules se sont engouffrées et ça peut être le couvage. Surtout qu'ici, ils ont une structure où ils perdent complètement leur latin. Je vous parlais de la mousse magnétique. Ils perdent leur latin sur la structure magnétique de cette zone-là. Donc est-ce qu'on est passé pile, elle est quelque part par là. Est-ce qu'on est passé pile dans un endroit où le champ magnétique est ordonné, du coup les particules se sont engouffrées là et qu'un peu plus loin elles faisaient les embrouilles? Là, vraiment, ils ne comprennent pas. Ils attendent Voyager 2, c'est Voyager 1 qui est sorti, et ils attendent Voyager 2. Et... j'ai dit Voyager 2. Oui, je pense. Un autre exemple de choc en étrave, c'est celui-ci, ça c'est le résultat. C'est celui de Tcheliabinsk qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps, hein, il y a 2 ans, où vous voyez ici l'image du météore et on voit la forme un petit peu à l'avant, pas trop parce que c'était trop lumineux, mais en fait c'est vraiment l'onde de choc qui a cassé toutes les vitres de la ville à côté. Hein. Ce n'était pas du tout l'impact même. À grande distance, l'onde de choc a fait exploser plein de vitres et a même blessé des gens. Et ce qui est intéressant, c'est de voir après que les satellites d'observation de la Terre de la NASA ont suivi le phénomène. Vu d'en haut. Et donc, ils ont fait des balayages, parce que les satellites tournent, donc ils ont fait des coupes dans le temps à des moments différents, du passage de l'onde de choc avec toute la perturbation atmosphérique que ça a causé. Et donc, vous voyez ici, au fur et à mesure des passages, désolé, là, on est à 8h du matin, à chaque fois que vous voyez un faisceau passer, c'est en gros 1h30, puisque c'est le temps de passage de rotation du satellite. Et vous voyez la plume qui se déforme parce qu'elle est entraînée par la circulation atmosphérique. Et ça, visiblement, ça leur a permis, si j'ai bien compris, de vraiment contrôler les modèles atmosphériques dont on parlait hier. C'est-à-dire de voir l'entraînement sur 2-3 jours, l'entraînement de cette boule de gaz chaud qui a été générée par le météore. Vous voyez que ça s'enroule. Et apparemment, ça marche bien avec la circulation globale, sauf qu'ils ont eu, ils l'ont en 3D, hein, ils ont aussi la profondeur, ils ont eu quelques surprises. Là, je sors complètement de mon champ. Mais ils ont eu quelques surprises. Ils ont été obligés de recaler leur filtre de Kalman dans le bon sens. Donc voilà un petit peu. Un autre exemple de choc en étrave. Alors, dans le choc en étrave classique, ici, vous êtes supersonique violemment ici. Puis vous êtes subsonique ici, par rapport au choc. Hein, c'est la partie perpendiculaire de la vitesse qui est importante. Voilà, comme vous êtes rasant, vous passez en subsonique. Là, vous êtes transsonique et là, vous êtes supersonique. Donc, c'est une vraie onde de choc là, et ça n'en est plus une là. Il faut faire de la continuité un peu plus sérieuse en hydro. Mais c'est toujours les mêmes relations de continuité. Hein, donc, on les utilise. Par contre, pour un choc d'étoile, voilà, il y a une belle étrave à l'avant de, ça doit être cette étoile, une belle étrave ici, comme une balle de fusil dans l'air, ça fait la même chose, détachée à l'avant, et vous êtes en fait supersonique partout. Et vous êtes supersonique partout parce que le V là est tellement important que vous vous retrouvez avec un V parallèle qui est encore supersonique. Alors que ce n'est pas toujours le cas des chocs en étrave. Si vous avez V pas trop supersonique devant, sur les côtés, vous allez devenir subsonique. Si c'est très violemment supersonique, ça reste supersonique assez loin dans la structure.
C'est quelle fréquence qu'on détecte ?
Ça, c'est je pense que c'est en optique. Ça doit être des raies de recombinaison des électrons et des protons, parce que c'est ionisé là. Et donc, ça doit être l'arrêt H alpha, les électrons qui se recombinent, ou de l'échange de charge, mais enfin, des électrons qui jouent avec les protons. Et vous avez des images aussi, on les voit bien, les chocs en étrave. Alors là, c'est complètement différent, c'est un vent relativiste. Vous avez un pulsar là, vous avez un pulsar là, ça envoie des particules qui sont dans des paires, des électrons-positons avec des facteurs de Lorentz qui sont ces 100 TeV, 10 TeV, les particules qui sont là derrière. Et elles sont cohérentes, c'est-à-dire c'est un vent qui part de l'étoile. Et parce que l'étoile a un mouvement dans le milieu interstellaire, le choc extérieur s'organise en étrave, milieu extérieur choqué qui appuie sur le vent, etc. Vous voyez que le vent est confiné par la pression du milieu interstellaire choqué. Et là, vous avez la partie basse énergie des particules et vous avez la partie haute énergie des particules. Là, pareil, vous avez la partie haute énergie des particules et la partie basse énergie. Donc, on voit bien la double structure. Il y a deux chocs. Vous avez aussi bien cette double structure sur un autre vent relativiste. Là, c'est un jet collimaté du trou noir central de cette galaxie qui envoie toute l'info ici. Alors là, des facteurs de Lorentz qui sont plus de 100 000, mais qui sont de 10, 20, 30, facteurs de Lorentz, hein, pas de Mach. Et vous voyez très bien le choc terminal quand vous arrivez en équilibre de pression, parce que ça ralentit, vous avalez le milieu intergalactique, donc le jet ralentit, donc il y a un choc pour négocier le ralentissement. Et vous voyez le choc, le lobe ici, avec le milieu ralenti et la source intérieure, et entre les deux, vous avez la double structure en choc. Vous avez encore des ondes de choc partout. Ici, vous avez le même jet qui sort d'une galaxie, ici, avec le beau lobe en finale, très beau lobe en finale en étrave. Et En radio, vous voyez donc l'activité des particules de haute énergie. Vous voyez en rayons X le gaz qui se trouve dans l'amas de galaxies, entre les étoiles, entre les galaxies. Il y a 10 fois plus de matière entre les galaxies que dans les galaxies, hein, dans un amas de galaxies. Donc vous voyez ce gaz bleu ici, qu'on voit très bien parce qu'il est chaud, il est à 1 million de degrés, donc on voit très bien en rayons X. Et en fait, si j'enlevais l'image radio, ben, vous auriez un grand trou ici. Donc les lobes poussent sur ce gaz, et c'est ça qui fait qu'il y a une structure en étrave. Et quand on enlève ces grands jets et qu'on regarde, ici il y avait le jet, était là, et regardez les ondes sonores qui partent dans le gaz bleu. Regardez où ça va. Et là, c'est vraiment des ondes sonores qui sont en train de perturber le milieu qui va former des galaxies. Donc, une grosse. Là, vous avez une galaxie qui est en train de plonger dans l'amas de galaxies. Et donc là, il y a tout le gaz de l'amas de galaxies, et la galaxie est en train de plonger. Regardez, quand on passe sur les zones de refroidissement, on voit l'étrave. Donc elle est en train de se faire stripper, décoiffer. Et pour finir avec la dernière image, là vous avez un amas de galaxies en optique, vous le voyez, tous les objets là, ce sont des galaxies, ce ne sont pratiquement pas des étoiles sur cette image. Donc vous avez un amas de galaxies ici, qui a été surligné en bleu pour trouver où est la quantité de matière. Vous avez un petit amas de galaxies qui est ici, qui est en train de traverser l'autre. Et regardez les deux ondes de choc qu'il y a entre les deux. Donc c'est une boule de gaz qui rentre à une autre boule de gaz avec des vitesses supersoniques. Et ben, la rencontre et les ralentissements se négocient avec des ondes de choc. Donc à toutes les échelles, c'est dur de ne pas trouver des ondes de choc dans la nature, en fait, quand on y réfléchit. Et toujours ces doubles structures. C'est le seul moyen qu'on puisse ralentir et propager l'information quand on est supersonique. Voilà. Merci de votre attention.